Les contes de l'Alhambra, le balcon. J'ai déjà parlé du balcon de la fenêtre centrale dans la salle des ambassadeurs. Il se projette comme une cage en dehors de la tour et s'élève dans la moyenne région de l'air au-dessus de la cime des arbres qui croissent sur le flanc de la colline. Ce balcon est pour moi une sorte d'observatoire, d'où je puis non seulement contempler le ciel, mais la terre. Outre le paysage magnifique qui se découvre au loin, une petite scène animée et bruyante de la vie humaine se présente à mon inspection immédiatement au-dessous de moi. Au pied de la montagne, on voit une alameda, ou promenade publique, moins à la mode que le moderne Prado de Grenade, sur les bords du Xénil, mais fréquenté par de nombreux promeneurs, dont les costumes variés offrent le coup d'œil le plus pittoresque. Là se rendent les bourgeois des faubourgs, les prêtres et les moines qui marchent pour prendre de l'appétit ou pour mieux digérer, les majos et les majas, ou les beaux et les belles de la dernière classe avec leurs habits andalous, les contrebandiers fanfarons, et quelquefois des personnages d'un rang plus élevé, cachant à demi leur visage et paraissant attirés là par quelque rendez-vous mystérieux. J'aime à étudier ce tableau mouvant des mœurs et du caractère espagnol. Et de même que le naturaliste a son microscope pour mieux examiner les objets de ses recherches, je suis muni d'un petit télescope qui rapproche tellement de moi ces groupes divers que je crois pouvoir deviner ce qu'ils disent d'après leurs gestes et le jeu de leurs traits. Je joue ainsi le rôle d'un observateur invisible. Et, sans quitter ma solitude, je me trouve transporté au milieu de la société, rare avantage pour un ami du repos, qui se plaît, comme moi, à observer le drame de la vie sans y devenir acteur. Au-dessous de l'Alhambra, un grand faubourg remplit l'étroite gorge de la vallée et s'étend sur la colline de l'Albaïcia en face. La plupart des maisons de ce faubourg, construites à la mauresque, ont des cours rafraîchies par des fontaines. Et comme les habitants passent la plus grande partie de leur temps dans ces cours ou patios, ou bien sur leurs toits en terrasse, mon poste aérien me permet de saisir plus d'un détail de leur vie domestique. Je jouis à quelques degrés des avantages que le diable boiteux accorde à l'écolier dans le fameux roman espagnol. Et mon babillard d'écuyer remplit l'office d'Asmodée en me contant les anecdotes qu'il sait sur les maisons et leurs habitants. Toutefois, je préfère en général forger moi-même des histoires conjecturales. Et je reste assise en ce lieu pendant des heures, occupé à démêler, d'après les incidents casuels, les indications qui passent sous mes yeux, le fil des intrigues, des plans, qui occupent les êtres que je vois s'agiter au-dessous de moi. Il existe à peine un joli visage ou une figure frappante, parmi ceux que je vois ainsi tous les jours, qui ne m'est fourni le sujet d'un roman. Souvent, il est vrai, mes personnages agissent directement en sens inverse du rôle que je leur ai assigné et dérangent l'économie de mon drame. Mais j'en suis quitte pour le recommencer sur nouveaux frais. L'un de ces jours, en promenant ma lunette sur les rues de l'Albaïcia, j'aperçus près d'un couvent une procession. Elle accompagnait une novice qui allait prendre le voile. et je remarquai diverses circonstances d'après lesquelles je me sentis ému de la plus vive sympathie pour cette jeune créature qu'on allait enfermer vivante dans la tombe. Je la trouvai suffisamment belle, et sa pâleur me fit juger qu'elle était victime de la volonté des autres, et non entraînée par sa dévotion. Elle était parée comme une mariée, avec une couronne de fleurs blanches sur ses cheveux. Mais son cœur se révoltait évidemment contre la dérision de cette union spirituelle et soupirait après son amant terrestre. Un grand homme à la mine sévère marchait à côté d'elle. C'était sans doute son tyran de père qui, par quelque motif de fanatisme ou d'avarice, la forçait à accomplir ce sacrifice. Au milieu de la foule, un beau jeune homme au teint brun, aux cheveux noirs, en costume andalou, fixait sur elle des regards désespérés. C'était l'amant secret dont elle allait être pour jamais séparée. Je ne pouvais contenir mon indignation en remarquant l'expression maligne qui se peignait sur les visages des moines. Enfin, la procession arriva à la chapelle du couvent. Le soleil brilla pour la dernière fois sur la couronne de la pauvre novice pendant qu'elle passait le seuil fatal et disparaissait dans les murs de l'édifice. La foule des ecclésiastiques, des moines, des chantres se pressa sur ses pas. L'amant s'arrêta un instant à la porte. Je devinai les sentiments qui l'agitaient. Mais il s'en rendit maître et entra. Il y eut un long intervalle pendant lequel je me représentai la scène qui se passait dans l'intérieur du couvent. La pauvre novice, dépouillée de ses habits de noces, de son chapeau de mariée, sa belle tête privée de ses tresses de soie, je l'entendais murmurer ses vœux irrévocables. Je la voyais étendue sur la bière, couverte du linceul funèbre, le service des morts était célébré. J'entendais les sons graves de l'orgue et le requiem plaintif. Le père regardait tout cela d'un œil froid et impassible. L'amant, mais non, mon imagination se refusait à le peindre. La figure de l'amant resta en blanc dans le tableau. Au bout d'un certain temps, la foule sortit de l'église et se dispersa de divers côtés, chacun se hâtant d'aller se mêler aux scènes animées de la vie. Mais la victime resta. Les derniers qui passèrent la porte du couvent étaient le père et l'amant. Ils paraissaient avoir ensemble une conversation sérieuse, et, d'après les gestes passionnés du jeune homme, je m'attendais à quelque sanglant dénouement pour mon drame. Mais l'angle d'un bâtiment les déroba à ma vue, comme une toile de théâtre fait disparaître la scène et les acteurs. Depuis ce moment, mes regards se sont bien souvent fixés avec un intérêt pénible sur ce couvent. Je remarquai, à une heure assez avancée de la nuit, une lumière à une fenêtre éloignée de l'une des tours du monastère. Là, me disais-je, la malheureuse nonne pleure dans sa cellule solitaire, tandis que son amant erre dans la rue au-dessous, livré à des angoisses inutiles. L'officieux Matteo interrompit un jour mes méditations et détruisit en un instant le tissu léger de ma fiction. Avec son zèle accoutumé, il s'était empressé de recueillir tous les renseignements possibles sur la scène qui m'avait si vivement touché. L'héroïne de mon roman n'était ni jeune ni belle. Elle n'avait point d'amant. Elle était entrée au couvent librement et volontairement pour y trouver un asile décent. et maintenant c'était l'une des plus heureuses parmi celles qui habitaient dans ces murs. Il se passa longtemps avant que je pusse pardonner à la religieuse le tort qu'elle m'avait fait en se trouvant ainsi heureuse et satisfaite dans sa cellule contre toutes les règles des romans. Cependant, je tâchais de dissiper ma mauvaise humeur en m'occupant un jour ou deux de la piquante coquetterie d'une jolie brunette qui, de son balcon ombragé d'arbustes fleuris, entretenait une mystérieuse correspondance avec un beau cavalier au teint foncé, aux moustaches épaisses, qui passait continuellement sous ses fenêtres. Quelquefois, je le voyais de très bonne heure, s'esquiver et enveloppé jusqu'aux yeux dans son manteau. D'autres fois, caché dans un coin sous divers déguisements, il attendait sans doute un signal convenu pour entrer chez la belle. Pendant la nuit, j'entendais les sons d'une guitare, et je voyais une lanterne paraître, tantôt à une place du balcon, tantôt à une autre. Je me figurais quelque intrigue, comme celle d'Almaviva. Mais je fus encore déconcerté dans toutes mes suppositions. J'appris que l'amant prétendu n'était que le mari de la dame, contrebandier renommé, et que les signaux et les mouvements mystérieux que j'avais observés se rapportaient à quelques tours de son métier. Je m'amusais souvent à remarquer du balcon des changements que les différentes heures du jour amenaient dans les scènes sur lesquelles je planais. À peine la ligne blanchâtre du crépuscule se montre le matin à l'horizon, saluée par les coqs des chaumières sur la colline, que les faubourgs donnent des signes de vie. Car les heures fraîches du commencement du jour sont précieuses dans les climats brûlants. Le muletier fait sortir son train de mulets tout chargé, le voyageur jette sa carabine sur son dos et monte à cheval à la porte de l'hôtellerie. Le paysan allé presse l'animal paresseux qui porte ses paniers remplis de fruits dorés par le soleil, de légumes couverts de rosée, car déjà les ménagères actives arrivent au marché. Le soleil monte, il éclaire la vallée, il dore les pointes transparentes des arbres. Les cloches, qui appellent aux offices du matin, résonnent mélodieusement dans l'air pur et serein. Le muletier arrête ses bêtes chargées devant la chapelle, passe son bâton dans sa ceinture, entre, chapeau bas, après avoir lissé avec la main ses cheveux d'ébène, et entend une messe pour obtenir une heureuse traversée de la Sierra. Maintenant, la gentille signora sort d'un pied léger, en basquine élégante, ne laissant jamais en repos l'éventail qu'elle tient à la main, et lançant les éclairs de ses yeux noirs sous les plis gracieux de sa mantille. Elle cherche quelque église à la mode pour y faire ses dévotions matinales. Mais sa toilette soignée, ses souliers mignons et collants, ses bas aussi fins que des toiles d'araignée, ses tresses noires ajustées avec un goût exquis, parmi lesquelles brille une rose fraîchement cueillie, montre que la terre partage avec le ciel l'empire de son cœur. Ayez l'œil sur elle, vigilante mère, duègne soigneuse, tante célibataire, enfin qui que vous soyez, vous que je vois suivre ses pas. À mesure que la matinée avance, le bruit des travaux augmente de tous côtés. Les rues sont encombrées d'hommes, de chevaux, de bêtes de somme. Un murmure, semblable à celui des vagues de la mer, monte jusqu'à moi. Quand le soleil approche de son méridien, le bourdonnement et l'agitation cessent par degrés. À midi, tout est calme. la ville cède à la fatigue, à l'épuisement de la chaleur. Et, pendant plusieurs heures, un repos général règne dans son enceinte. Les fenêtres sont fermées, les rideaux tirés, les habitants endormis dans les plus fraîches retraites de leurs maisons. Les moines à face rebondies ronflent dans leur dortoir. Les vigoureux portefaix s'étendent sur le pavé à côté de leur charge. Le paysan dort sous les arbres de l'Alameda, bercé par le chant criard de la cigale, ce bruit qui rappelle si fortement l'été. Les rues sont abandonnées aux seuls porteurs d'eau glacée qui rafraîchissent l'oreille en proclamant le mérite de leur breuvage cristallin, plus froid que la neige des montagnes. Quand le soleil est sur son déclin, on se ravive par degrés, et la cloche des vêpres semble appeler toute la nature à se réjouir de la fuite du tyran du jour. Alors commence le mouvement des plaisirs. Les habitants de Grenade en sortent pour aller respirer l'air du soir et jouir de l'instant si court du crépuscule dans les allées et jardins du Darro et du Xénil. Dès qu'il fait nuit, la scène capricieuse prend un nouvel aspect. Des lumières brillent l'une après l'autre. Ici, c'est un flambeau sur un balcon ouvert. Là, une lampe votive devant l'image d'un saint. La ville sort graduellement des ténèbres, éclairée par des étincelles éparses comme un firmament étoilé. C'est alors que l'on entend surgir des cours et des jardins, des rues et des ruelles, le tintement des innombrables guitares et le cliquetis des castagnettes qui se confondent ensemble par l'éloignement. Jouir du présent est un des articles de foi de l'amoureuse et joviale Andalou, et jamais il ne le met en pratique avec plus de zèle que pendant les nuits embaumées de l'été, en cherchant à plaire à sa maîtresse par la danse, les chansons d'amour, les sérénades passionnées.